Cinquième instruction.
Au fond, tout ce que j'essaie de dire est un commentaire de ce que j'ai essayé de comprendre du message de Thérèse de l'Enfant Jésus en un sens, avec la conviction de plus en plus profonde que le message de Thérèse est un message de la Sainte Vierge, et que justement il procède de la simplicité incompréhensible de la Sainte Vierge. Je ne suis pas du tout certain d'avoir bien compris le message de Thérèse. Je suis certain qu'il est très difficile à comprendre. Et ceci, évidemment, pas parce qu'il est cérébral. Ça, c'est sûr. Il faut plutôt y aller avec le cœur, mais j'avoue qu'il ne suffit pas d'y aller avec du sentiment. Ni le sentiment, ni l'intelligence, mais seulement le Saint-Esprit. En tant qu'il est offert aux petits, je te loue, Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de les avoir révélées aux petits. C'est précisément parce qu'elles sont vraiment cachées, et que je ne prétends pas qu'elles m'aient été dévoilées convenablement, mais enfin, j'ai essayé de comprendre ces choses et de les expliquer à ma manière, qui est plus visiblement ardue que le message et les paroles de Thérèse, mais qui peut-être à ce point de vue-là est plus franc, en ce sens que on pourrait croire que le message de Thérèse est facile à comprendre. Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas facile du tout. Et pour des raisons qui tiennent, alors là oui, à notre péché, à notre misère, à notre aveuglement, enfin certainement pas à une intellectualité excessive. Alors je voudrais vous le prouver ça. Et je peux vous le prouver à partir d'une histoire que j'ai pu reconstituer en partie à l'aide du livre Conseils et Souvenirs, à l'aide de l'histoire d'une âme, et puis aussi à l'aide du procès de béatification qu'on possède maintenant publié avec l'intégralité des témoignages en français, bien entendu. Alors cette histoire va pouvoir vous aider à comprendre, ou tout au moins à constater que ce message de Thérèse est une drôle d'histoire quand même. Cette histoire, pour que vous la compreniez bien, dans tout ce qu'elle a de déroutant, mystérieux, il faut remonter à saint Augustin, non pas à sa doctrine mais à sa vie et à cet événement qui s'est passé sur la plage d'Ostie avec sa mère sainte Monique, et où ils ont été emportés dans une extase commune. Alors, tout de même, quand ça vous arrive, ces choses-là, on se sent uni d'une union qui dépasse toutes les unions de la terre, dans une union d'une profondeur qui dépasse, je ne dirais pas celle du Cantique des Cantiques, mais celle de Roméo et Juliette, si vous voulez, n'est-ce pas ? Des plus grandes histoires d'amour qu'on peut inventer, aucune ne peut réunir deux êtres avec cette intimité trinitaire qu'ils éprouvent s'ils entrent en extase au même moment et sous l'effet d'une Pentecôte commune. Vous avez dans votre tradition une histoire analogue. Je ne sais pas si ça a comporté, à proprement parler, une extase entre Saint Benoît et Saint Scolastique, mais ça brûlait d'un même feu pendant toute une nuit. Et Saint Scolastique a été emporté par ce feu le lendemain matin, je crois, un peu comme la Sainte Vierge de l'Assomption. C'est pas banal non plus, enfin, quand deux âmes en arrivent là, où Saint Jean de la Croix et Thérèse d'Avila, elles se sentent unies. Je pense que c'est pas trop difficile à comprendre ce que je dis là, hein. Je crois que là, tout de même, c'est accessible, ça. Bien. Or, il est dit, je crois que c'est dans l'histoire d'une âme, alors là, très nettement, très précisément, que au Belvédère, Céline et Thérèse ont connu ça, littéralement, qu'elles ont été emportées par un élan d'amour, d'ordre extatique, même si ça n'a pas comporté l'extase proprement dit, j'en sais rien, mais enfin de l'ordre Saint-Benoît, Saint-Scolastique, Saint-Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, Saint-Augustin, Sainte-Monique, enfin tous les cas de ce genre, tous les cas de pentecôtisme avant la lettre du pentecôtisme, et ma foi, avant le pentecôtisme on était bien démunis, mais enfin on avait tout de même la Pentecôte, ce qui est l'essentiel, de sorte qu'on pouvait avoir des événements charismatiques au pentecôtisme avant la lettre. Dans l'histoire de l'Église, il y en a eu de nombreux, et ceux que j'évoque, je les prends exprès à deux personnages, il y en a eu d'autres à plusieurs, mais je les prends à deux personnages, vous allez comprendre pourquoi. Donc Céline et Thérèse ont connu cela. Quand on a connu ça, on se sent uni, je le répète. On se sent sœur d'âme. On se sent uni trinitairement, brûlé de la même flamme. On comprend ce que veut dire le mot intimité. Et de même que Thérèse d'Avila disait, si les mondains connaissaient dans tous les plaisirs qu'ils recherchent une seule goutte du plaisir qu'on éprouve parfois, de la saveur, des délices que l'on éprouve parfois dans leur raison, ils abandonneraient immédiatement tout leur plaisir pour rechercher ces délices qui payent de toutes les peines et qui dépassent dès ici-bas, que dire dans l'éternité, tous les plaisirs de la terre, toutes les satisfactions, tous les plaisirs de la terre, oui. Alors quand on est deux à goûter cela, alors on se dit tous ceux qui cherchent l'intimité, et plus encore ceux qui cherchent à se tenir chaud ensemble, n'est-ce pas, à se sentir bien unis dans une communauté fraternelle, familiale naturelle ou familiale surnaturelle, s'ils savaient ce que c'est que cette intimité-là, ils ne chercheraient pas autre chose en fait d'intimité, ça dépasse en intimité tout ce que les intimités naturelles et théoriquement surnaturelles, mais qui le sont plus verbalement que concrètement, peuvent offrir. Bien. Alors elle ne faisait qu'un. À la vie, à la mort. Et la séparation n'y pouvait rien. La séparation est intervenue très vite quand Thérèse est entrée au Carmel. Alors là, leur union, ce qu'on appelle justement, traditionnellement, en langage ecclésiastique, n'est-ce pas, grande union, n'est-ce pas, quand on est, ça évoque effectivement une union des âmes que nous désirons, mais qui n'est pas toujours donnée avec cette intensité extraordinaire qui unissait Thérèse à Céline. Union qui s'est trouvée donc renforcée en fin de compte par la séparation, par la souffrance, union qui n'est pas exclusive des déchirements de la séparation et qui se renforce comme peut se renforcer l'amour de deux êtres séparés par la prison, par les voyages, par tout ce que vous voudrez, et qui, tout en ne se voyant pas, en s'écrivant ou en sortant plus possible, enfin, soupirent l'un vers l'autre et se sentent unis par la souffrance même, par le déchirement lui-même, au-delà de tout ce que même les satisfactions qu'ils ont connues peuvent donner. C'est encore plus profond, c'est encore plus creusé, et alors on rêve du jour des retrouvailles. Enfin, c'est quelque chose qui n'est plus de la terre. Tout en étant sur la terre, elles ont connu cela. Et puis un jour, Céline est entrée au Carmel à son tour, elles se sont retrouvées. Et là, eh bien, elles ont dû constater cette chose effarante, qu'elles ne se comprenaient plus. Elle se comprenait plus. Ça a été terrible, et c'est cet exemple que je vous offre pour vous faire comprendre que Thérèse n'est pas facile à comprendre. Céline n'a pas compris Thérèse. Voilà le fait. Et ça n'a pas été faute d'essayer de se faire comprendre de la part de Thérèse, et faute d'essayer de comprendre de la part de Céline. Elles ont beaucoup parlé. Et ça a été un dialogue extrêmement douloureux que je pourrais résumer sans grand discours, en mettant dans la bouche de Céline un petit résumé de tout ce qu'elle disait. Parce que Céline, j'ai dit qu'elle ne comprenait pas, mais par un bout, elle comprenait très bien. Elle comprenait trop bien. Elle comprenait trop bien ce que Marie, de son côté, qui n'était pas du tout comme Céline, qui était une âme libre, je dirais d'ailleurs dans un corps libre, parce qu'elle se promenait dans tous les endroits de la maison, elle ne tenait pas en place, elle s'embarrassait pas de dévotion extraordinaire, elle ne se cassait pas la tête, Marie. Alors vraiment, elle ne se cassait pas la tête du tout. Céline se cassait la tête. Mais Marie ne se cassait pas la tête. Oui. C'est un peu comme les enfants de Fatima, Jacinthe se cassait la tête, François ne se cassait pas la tête. Oui. Et Lucie a dit, s'il avait vécu, ça aurait pu être un défaut chez lui. Vraiment, il se cassait pas la tête. Bon. Ben, Marie, elle se cassait pas la tête. Elle y allait comme ça. Mais elle avait des lumières, et elle comprenait très bien Thérèse. Elle la comprenait tellement bien qu'elle lui a dit un jour, écoutez, c'est inouï. Vous êtes vraiment possédé par Dieu, comme on est possédé par le démon. Voilà, c'est la perception qu'avait Marie, qui répondait très bien d'ailleurs à ce que Thérèse elle-même sentait quand on avait évoqué des expériences de magnétiseurs, des expériences d'hypnotisme. Elle ne savait pas ce que c'était, Thérèse, elle n'avait pas une telle culture, et on lui a appris ça au Carmel, que ça se pratiquait, que... un magnétiseur magnétisait des sujets qui étaient... alors complètement dominée, envoûtée par le magnétiseur. Alors elle a tressailli, elle dit « Ah, c'est ça que je... Ah, voilà ce que j'attends de Jésus, d'être magnétisé par lui, comme... Ah, voilà, comme on peut être en possédé ou envoûté par le démon. » Et Marie a très bien senti que c'était ça. Et Céline aussi a très bien compris que c'était ça. Seulement alors... Et ça a été le drame. Elle a dit, ben moi j'y suis pas. En route. Moi je voudrais bien. Mais je veux pas. Alors ça a été une litanie interminable. Sur l'air de, ah vous, ah moi, vous, moi. Alors, Thérèse essayait de lui dire, mais ça n'a pas d'importance, mais c'est pas ça le problème, elle en fait là. Céline ne comprenait pas. Qu'en effet, ça n'avait pas d'importance, qu'en effet, ce n'était pas là le problème. Alors où il était le problème? Ah ben, pour elle, Céline, elle était là, elle était emboutée, elle n'était pas. Elle volait vers l'astre divin, comme un aigle. Et puis elle, Céline, elle était... Elle faisait partie des rampants, comme on dit dans l'aviation. Vous voyez, ceux qui rampent comme ils peuvent, les chenilles qui ne sont pas encore devenues papillons. Oh, vous, et moi. Et Thérèse de se dire, mais vous n'y comprenez rien, mais c'est pas ça, mais alors c'est quoi? Ben, ça n'a pas d'importance, ça ne change rien, c'est pas le problème, voilà la question, alors où est-ce qu'elle est la question? Exemple, alors ben, la question c'est que c'est justement à l'envers de ce que vous cherchez. Ah, j'ai encore beaucoup à acquérir, je ne sais pas si c'est Céline qui le disait ou une autre novice, mais je soupçonne, ça risque d'être Céline, et elle lui s'est dit plutôt à perdre. Alors, le kiber gagne constamment, et ah oui, seulement tout de même, vous avez cette espèce de, quand je vois la délicatesse avec laquelle vous livrez à l'amour de Dieu, remerciez Dieu d'être sans délicatesse. Alors Céline, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là, remerciez Dieu de ne pas l'aimer? C'est à ça que ça revient, mais et c'était tragique, en un sens, car Thérèse, bon, ben, elle n'est pas arrivée à la perfection du jour au lendemain, et au début de ses affrontements, car ce furent des affrontements, et pas banal, elle était excédée par ce nian de Céline, entre vous, moi, oh, je n'arriverai pas à ça. Elle avait même claqué la porte de sa cellule, je n'y comprendrai rien, n'y comprends rien, j'y peux rien, je ne peux plus. Ça l'avait mise hors d'elle. Puis naturellement, elle s'était calmée, très vite. Elle était un peu comme Saint Ignace qui disait, oh, les histoires humaines, hein, au bout d'un quart d'heure de raison, moi, il n'en reste plus rien. Hein, c'est beaucoup plus dur, là. Bon, alors, elle avait tendance à aller comme ça, à force d'être magnétisée. Qu'est-ce que vous voulez, évidemment, hein, non. Quand on est envoûté, bon, on se laisse prendre aux choses, comme ça, puis on retombe dans son envoûtement, et puis ça au bout d'un quart d'heure, c'est fini, quoi. Bon, alors, enfin, elle s'était calmée, mais alors, elle s'était calmée, mais elle n'avait pas perdu sa souffrance, cette espèce de douleur de voir que Céline ne comprenait pas, ne comprenait pas, ne comprenait pas. Et une des raisons pour lesquelles Céline ne comprenait pas, et c'est justement ce que Céline ne pouvait pas comprendre, c'est que, comme le dit Thérèse au début de l'histoire d'une âme, il y a beaucoup de fleurs dans la maison de Dieu, le jardinier, ben, il fait des arbres, c'est toujours le mystère de la vie, les arbres, c'est toujours le mystère de la vie, les fleurs de la vie végétale, sans parler de la vie animale, mais prenons la vie végétale. Bon, ben, il y a des quantités de fleurs, et pas deux fleurs ne se ressemblent pas, mais c'est le même mystère de la vie, mais enfin, quelle destinée différente entre les éphémères, je prends le domaine animal, n'est-ce pas, qui vivent 24 heures, et puis je ne sais pas quelles espèces qui peuvent vivre des chaînes séculaires, n'est-ce pas, bon, c'est la même vie, l'une dure 24 heures, l'autre 200 ans, tout ça aux yeux de Dieu, c'est la variété, c'est l'exubérance, c'est la surabondance, c'est la générosité, c'est l'invention créatrice des anges qui s'amusent comme un peintre qui invente de nouvelles toiles, ils inventent de nouvelles espèces, c'est pour un naturaliste, c'est merveilleux, c'est éblouissant, c'est toujours le même mystère de la vie, mais c'est toujours déroutant, imprévisible, c'est jamais ce qu'on attend, alors, eh bien, cet esprit d'enfance, disons cet esprit d'enfance provisoire, bon. Cette intuition de Thérèse, ce chemin, cette lumière, que Céline ne comprenait pas, pour la comprendre, pour la vivre, pour l'accomplir, pour la consommer, et pour l'enseigner, pour la prophétiser, Thérèse avait 24 ans devant elle. C'est pas beaucoup, hein. Il fallait faire vite, hein, parce que Dieu avait, voilà. Il avait fabriqué une fleur, une petite fleur, justement, histoire d'une âme, une fleur qui devait vivre 24 ans, se consumer au bout de 24 ans, produire tous ses fruits au bout de 24 ans, et être suivie alors d'une destinée posthume d'un ouragan de gloire, mais sur terre, 24 ans. Or, Céline était prédestinée à vivre la même chose, exactement la même chose, à comprendre la même chose, à avoir la même lumière, mais elle, c'était prévu qu'elle y mettrait 90 ans. Bon, la belle affaire, oui, la belle affaire, une fois qu'on comprend ces choses dans la lumière de Dieu, mais quand on est une Céline et même une Thérèse, on voudrait bien que ça aille plus vite, quoi. Hein? Alors, 90 ans pour comprendre ce que Thérèse a compris en 24 ans, Thérèse elle-même a eu du mal à l'accepter, que Céline, et elle a reçu une lumière au bout de ces discussions épuisantes et stériles en apparence. Elle lui a dit un jour, alors sur un ton très différent de celui où elle a claqué la porte, elle lui a dit « Oh, puis j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. » Et elle a dit ça un petit peu comme le Christ disait à ses apôtres « Non, vous comprenez rien. » Même maintenant, après la résurrection, il leur a dit encore « Vous avez le cœur dur, vous croyez qu'à moitié, il vous faut des preuves, tout ça. Vous êtes fatigant. Vous voulez que je m'en aille, hein ? Moi, il y a un mur entre nous. Il faut que je m'en aille par la porte. Je reviendrai par derrière. Et à ce moment-là, vous comprendrez. Je vous donnerai un cœur pour comprendre. Parce que c'est la seule chose qui vous manque. Tout le reste, je vous l'ai donné, comme dans le Deutéronome. Je vous ai donné tout ce qu'il fallait pour comprendre et pour être sauvé, pour évangéliser le monde. Mais la seule chose qui vous manque, c'est un cœur. Pour comprendre, un cœur de chair. Ben, je vous l'enverrai, je vous le donnerai, ce cœur de chair. Mais quand je serai parti. Pourquoi? Comme dit la Fontaine, demandez-moi pourquoi. Je n'en sais rien, c'est comme ça, c'est les voies de Dieu. Il vaut mieux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille, c'est toute lettre. Parce que quand je serai parti, je vous enverrai l'esprit, mon esprit. Dans les clans, on cause, hein, mais vous avez votre esprit et moi j'ai le mien, puis ça passe pas. Ça passe pas. Malgré peut-être des extases en commun, que peut-être ils avaient eu avec Jésus, ou d'abord ils l'avaient eu, alors, le belvédère, qu'est-ce que c'est, et aussi, qu'est-ce que c'est à côté du d'abord? Alors là, ils s'étaient sentis à Jésus-Christ, ils ne comprenaient rien. Voilà. Ils avaient brûlé d'amour en commun avec Jésus et ils ne comprenaient rien. Enfin, comme disent les Normands de mon pays, hein, pour dire qu'il n'y a pas de pommes, si, il y a des pommes, bien sûr, pour la récolte, est-ce que vous avez eu des pommes, père machin? Bon, pour dire qu'il n'y a pas de pommes, si. Il y a des pommes, mais pour dire qu'il y a des pommes, non, il n'y a pas de pommes. Hein. Oui. Eh bien, c'est la même chose. Pour dire qu'ils comprenaient rien, si, ils comprenaient quelque chose, bien sûr. Mais pour dire qu'ils comprenaient, non, ils comprenaient pas, ils comprenaient rien. Avec la passion d'amour et de lumière qui animait Jésus, par rapport à ce qu'il voulait qu'ils comprennent, ils ne comprenaient rien. Et il s'est dit, ils ne comprendront pas de mon vivant, si j'ose dire, non seulement de mon vivant avant la passion, mais même de mon vivant après la passion, à la résurrection. Non, tant que je ne serai pas parti, c'est ce qui fait la profondeur si fascinante et si mystérieuse du mystère de l'ascension, que les exégètes ont envie un peu de bloquer avec la résurrection. Là, je ne suis pas d'accord du tout, parce qu'il y a tout de même la fête de la résurrection, puis il y a la fête du départ. Alors 40 jours, pas 40 jours, j'en sais rien, mais enfin, il est parti. Et il a fallu qu'il parte. pour que, justement, et immédiatement, et en vertu de, du dynamisme enclenché, comme on enclenche une bombe infernale, n'est-ce pas, quand on l'amorce, et puis qu'on l'enclenche, et puis qu'on la règle à, eh ben là, elle est réglée à -9. Au compte à rebours. Il s'en va, et puis -9, -8, -7, -6, -5, -4, et à 0, paf, l'explosion, la pente. Ils ont compris. Puis alors on en a entendu parler. L'Église a été fondée. Eh bien, d'une manière un peu analogue, Thérèse a compris, elle a été éclairée, elle s'est résignée. Ça a été un déchirement, parce que sur cette terre, elle ne communierait pas, malgré le belvédère, malgré le tabord, malgré tout ça, avec Céline. Elle lui a dit non, vous ne comprendrez pas tant que je vivrai. Je vous ferai comprendre après ma mort. Voilà. Pour accepter ça. Et ça a continué comme ça jusqu'à la fin. Ce jour de sa mort, si douloureux, chargé de nuages, et les nuages se sont déchirés. Aussitôt qu'elle est morte, on a vu les étoiles, ce 30 septembre, et Céline a vu une étoile dont elle a su que c'était Thérèse. Et elle a commencé à comprendre. Tout ça, tout ce qui était caché à ses yeux a commencé à être dévoilé, ses écailles ont commencé à lui tomber des yeux, et elle est entrée à son tour dans ce même chemin, dans cette même voie, qu'elle comprenait avec une profondeur redoutable qui va nous amener au sujet dont je voudrais vous parler, car vers la fin de sa vie, donc elle avait encore pas mal à vivre, n'est-ce pas? Je ne sais pas quel âge elle avait à la mort de Thérèse, encore. Bon, elle est morte à plus de 90 ans, donc ça faisait bien 60 ans encore à s'envoyer pour creuser ce mystère. Et à la fin de sa vie, elle disait, ce qui me donne le soupçon qu'elle avait vraiment très profondément compris, on parle toujours de la voix d'enfance, on pourrait tout aussi bien dire la voix du bon larron. Oui. Donc, des pêcheurs. Le chemin des pêcheurs. Alors, si c'est pas facile à comprendre tout ça, ne vous étonnez pas, j'ai autant de mal que vous. Et si j'y ajoute les complications cérébrales dont je suis fauteur, prenez-le comme une misère supplémentaire dont je vous demande de me de me faire, sur lesquelles je vous demande de me pardonner, de me faire miséricorde. Mais alors sachez bien que si vous ne comprenez pas mes mots, c'est pas important, c'est la chose que vous risquez, comme moi, de ne pas comprendre. Alors, quelle chose? Essayez de vous la dire comme je peux, comme je la comprends. C'est-à-dire très mal dans tous les sens du mot. Très mal au fond, et puis très mal en surface, parce que ce que je comprends au fond, je l'exprime avec des mots d'intellectuel qui n'arrangent rien, ma foi. Ben, nous sommes des pêcheurs, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes des pêcheurs. Et c'est tout à fait autre chose que nos premiers parents ou les anges dont nous avons parlé jusqu'à présent. Faut quand même essayer d'intégrer ça, quoi. Hein? Alors, nous sommes des pêcheurs, ça veut dire une chose très précise que saint Paul a bien dit. Nous sommes enfermés dans la désobéissance. Nous sommes en prison. C'est comme ça. Et là, je risque une hérésie. Comme Jean-Paul Ier disant, je vais dire une hérésie. Jean-Paul Ier, enfin, disant, je vais dire une hérésie. Dieu permet que des âmes tombent dans le péché mortel parce qu'il préfère ça plutôt que de les voir aveugles indéfiniment à certaines choses. C'est une hérésie, n'est-ce pas? Mais je le dis quand même. Voilà ce que disait Jean-Paul Ier. Ça veut dire quoi, autant que je peux comprendre? Ça veut dire que dans ce péché, il y a un aspect de châtiment, il y a un aspect de misère, il y a un aspect par lequel nous sommes prisonniers de Satan. Et c'est évidemment celui qui nous est le plus douloureux, le plus évident. Le bien que j'aime, je ne le fais pas. Le mal que je déteste, je le fais. Je sens Dieu avant moi, et puis le plus fort, ben, c'est pas le meilleur, quoi. En gros, ça se résume comme ça. Malheureux homme que je suis. Nous sommes captifs. Nous sommes enchaînés comme des captifs. Et enchaînés, justement, au mal, au démon. Tous, plus ou moins, mais tous. Et c'est une grande misère. Et alors c'est ici que, première remarque, cette captivité comme telle, si avec ça, dans notre vie, je dis, ça n'affligerait pas le cœur de Dieu, ou si ça afflige le cœur de Dieu, ça l'afflige dans le sens d'un immense amour et d'un immense désir de nous sauver, de nous tirer de là. Donc, je serais tenté de dire, si avec ça, ce serait pas un problème pour Dieu. Et alors, je vais plus loin. Je vais essayer de risquer comme ça, d'y aller tout doucement, parce que j'ai peur de bafouiller, alors je prends mon temps, hein. Bon. Si avec ça, oui, c'est un peu ce que dit Lewis textuellement dans Être ou ne pas être, un petit livre que je vous recommande, bien qu'il soit anglican, mais qui est beaucoup plus fidèle à Saint-Augustin, en tout cas, et même à Saint-Thomas d'Aquin, que beaucoup de catholiques. Eh bien, si avec ça, donc, dit Lewis, ce serait pas un problème pour Dieu. Parce que si avec ça, ce serait l'équivalent de quelqu'un qui naîtrait avec... aveugle de naissance, sourd de naissance, paralytique, enfin toutes ces misères qui sont une figure des misères de l'âme, et que le Christ dans l'Évangile guérit d'un mot, d'un geste. Si tu le veux, tu peux me guérir. Mais bien sûr, mais c'est évident. Mais mon enfant, demande-moi d'être guéri, tu seras guéri. En un instant, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Je suis un pécheur, je suis enfermé dans la désobéissance, je suis un esclave de Satan. Mais, je me rappelle pas la formule dans le pardon. Dis seulement une parole, je ne suis pas digne que tu en sois en toi. Et je serai guéri. Mais c'est évident tout ça, ça pose. Mais bien sûr, mais comment donc? Répond Jésus-Christ. C'est évident, dis là donc cette parole, puis tu seras guéri tout de suite. Si tu avais la foi comme un grain de sève, tu dirais à cette montagne qui t'écrase et dont tu te sens prisonnier, justement, de se précipiter dans la mer, dans l'océan de mon amour, mais ce serait fait tout de suite. Bon, c'est pas un problème, si tu as la bouche, oui, c'est un problème, pas de problème. Moi. Et c'est justement ça où nous commençons à trouver Céline disant, vous planez, moi je rentre, mais c'est pas un problème, ça. Bon. Mais d'un instant à l'autre, ma pauvre Céline, et c'est ça que cette Thérèse essayait de lui faire comprendre, mais il peut te faire voler comme moi, c'est pas un problème, ça. C'est pas un problème pour Dieu, en tout cas. Alors c'est un problème pour nous, mais quel problème? Ah ben c'est d'y croire. On y croit pas. Bon, d'accord, si vous aviez la foi comme un grain de sève, ce serait vite fait. Mais alors pourquoi vous ne faites pas un... Non, ben d'abord parce que tu n'y crois pas. Et oui, parce que ce problème-là, c'est pas un problème pour moi, mais avec toi, j'ai un problème. Il y a quelque chose, dit Lewis, qui est un problème même pour Dieu. Et cette chose qui est un problème même pour Dieu, mais nous n'avons parlé que de ça pendant toute la première partie de la retraite. des innocents, comme les anges ou nos premiers parents, Dieu a un problème pour les faire entrer dans sa joie parfaite. C'est leur liberté. Vont-ils accepter de lui faire plaisir pour rien, gratuitement, de perdre toute leur avidité légitime à l'égard de ce bonheur, en comprenant que cette avidité ne peut les mener à rien, pour faire un geste gratuit de confiance, pour faire plaisir à Dieu? Est-ce qu'ils vont faire ça? Alors ça, c'est un problème pour Dieu. Je ne sais pas pourquoi, moi, c'est un problème pour Dieu. Alors là, vous ne me demandez pas plus que je ne peux vous donner, mais je sais que ça, c'est un problème pour Dieu. Et le problème, c'est qu'il n'y est pas arrivé avec tous les anges et qu'il n'y est pas arrivé avec nos premiers parents. Alors là, ça, c'est un problème. Et alors, le malentendu entre nous et Dieu, le malentendu entre Céline et Thérèse, c'est que ce que nous croyons être un problème, ce qui est un problème pour nous n'est pas un problème pour Dieu, mais ce qui est un problème pour Dieu n'est pas un problème pour nous. On n'y fait pas, on n'y prend pas garde, parce que le même problème demeure entre nous et Dieu que celui dont j'ai parlé pendant la première partie de la fête, entre nos premiers parents et Dieu, entre les anges et Dieu, vont-ils me faire plaisir? Et justement, vont-ils me faire le plaisir de croire, si vous aviez la foi comme un grain de sève? Mais pour avoir la foi comme un grain de sève, il ne faut pas avoir la foi en se disant, ah bon, c'est le moyen, c'est comme ça, c'est la seule façon d'en sortir, d'accord, je vais y arriver. Puis je suis arrivé. Non, cette foi dont j'ai besoin, tu ne me la donneras pas comme ça, tu me la donneras pour me faire plaisir. Là, à ce moment-là, je te guérirai. Ça, c'est pas un problème pour moi, mais ce qui est un problème pour moi, c'est d'obtenir que tu me fasses plaisir. Mais je suis prisonnier, je veux bien, mais tu peux très bien me faire plaisir quand même. Tout aussi bien que si tu étais innocent. Et là commence la chose difficile que je voudrais vous faire comprendre. Car l'illusion que nous avons, nous tous, l'erreur qui est dans notre tête et dans notre cœur et que le Saint-Esprit doit combattre pendant 60 ans s'il le faut, comme pour Céline, c'est cette idée, c'est très gentil tout ça, c'est très bien tout ça, mais si je veux trouver Dieu, faut d'abord que je guérisse. Et ensuite, ben je verrai avoir un petit peu, comme nos premiers parents, le problème d'entrer dans la vie éternelle, de si c'est un problème, mais à nos yeux, au fond, ce n'en est pas un. Putain, nous ne comprenons pas que ça, c'est un problème. Pour nous, le problème, c'est de devenir innocent, c'est de redevenir juste, c'est de redevenir, c'est d'être lavé de nos fautes. Ça, c'est le problème, c'est d'être délivré de notre prison. Ah oui, ça, c'est un problème. Ça, c'est... Et puis alors après, ben, plus de problème. Mais c'est après que c'est terrible. Je vous l'ai dit au début, mais c'est pareil maintenant. Alors, nous, notre schéma, c'est notre discussion avec Dieu et notre discussion âpre dont Céline et Thérèse offraient le reflet entre elles deux. C'est-à-dire, guérissez-moi d'abord et puis après, je ferai ce que je vous ferai plaisir. Je vous ferai plaisir à vous. Moi, je sens qu'une fois guéri, oh là là, comme je vous aimerais, que je vous donnerais tout, comme je vous donnerais tout à gogo, dans tout mon cœur. Je pourrais vous aimer avec délicatesse, comme je vois que, Thérèse le fait, je crois que je serai délivré de ma misère, moi, Céline, comme je vous aimerais. Pas du tout. Si t'as pas commencé avant, tu n'y arriveras pas non plus après. Si t'as pas commencé à m'aimer, comme Thérèse, avant d'être guérie, de ce dont Thérèse est guérie. Oui, c'est vrai. Elle est guérie. Elle ne rampe plus, elle vole. Mais dans son vol, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'elle vole, c'est qu'elle me fait plaisir. Et si tu commences pas à me faire plaisir pendant que tu es une rampante, une fois que je te donnerai de voler, tu ne me feras pas plaisir non plus, tu recommenceras le péché de vos premiers parents. Il faut prendre l'habitude de me faire plaisir dès maintenant. Il faut comprendre que tu es capable de me faire les mêmes cadeaux que les anges et nos premiers parents, et que toi qui es une rampante, tu peux me faire le même cadeau que Thérèse qui est une volante, et que tu essaies dès maintenant de me faire ces cadeaux avant d'être guéri. Autrement dit, Et alors là, nous en arrivons au paradoxe que je désespère d'expliquer et même de comprendre. Il faut recevoir la joie parfaite, ou plutôt, oui, il faut l'accueillir pour faire plaisir à Dieu. Il faut faire le mouvement que n'ont pas fait tous les anges et que n'ont pas su faire nos premiers parents. Il faut le faire avant d'être guéri du péché. Et dans le péché, et en tant que pécheur, et en s'appuyant sur le fait même que nous sommes des pécheurs, il faut entrer dans la joie parfaite. Avant d'être guéri, et nous serons guéris en entrant dans la joie parfaite, et c'est la joie parfaite qui nous guérira, et non pas l'inverse, que nous réclamons toujours, être guéri d'abord, pour ensuite passer à un exercice supérieur qui consiste à entrer dans la gloire, etc. Or, ce mouvement d'accueillir la joie parfaite alors que nous sommes des pécheurs, comme si nous étions innocents, pour faire plaisir à Dieu, avec la même gratuité, c'est cela que j'appelle, que Dieu appelle accueillir la miséricorde. Ce qui revient à dire que la miséricorde, ça a l'air d'être bien pratique. On se dit la justice c'est redoutable, mais la miséricorde ça va. La miséricorde, je m'en sors, je m'en tire grâce à la miséricorde. Il reste qu'il y a aussi la justice et qu'on ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Et si je pouvais tomber sur la miséricorde, ça serait très bien. Or, la miséricorde, il est absolument impossible de l'accueillir si on ne fait pas le mouvement que nos premiers parents n'ont pas su faire et que les mauvais anges n'ont pas su faire, si on ne sait pas l'accueillir pour faire plaisir à Dieu. Et c'est exactement ce que Céline appelle la voie du bon larron. C'est le mouvement de Marie-Madeleine qui arrosait de ses pleurs les pieds de Jésus et qui était touchée par la miséricorde. Vous voyez, ce qui compte dans la miséricorde, c'est que avant de nous sauver, elle nous touche. Et que nous ayons envie de lui faire plaisir à la miséricorde avant d'en profiter. Et alors tout le reste nous sera donné par surcroît. Nous serons guéris par surcroît dans la mesure où, face à la miséricorde, nous ne chercherons pas d'abord à l'exploiter pour être pardonnés, mais dans la mesure où nous serons touchés, bouleversés d'émotion, comme le père de l'enfant prodigue est bouleversé de compassion, et bien que nous soyons touchés par la compassion du père, comme le fils aîné n'a pas su être touché. Alors si nous nous laissons toucher par la miséricorde, nous aurons envie gratuitement pour rien, et sans nous occuper de notre salut, de faire plaisir à la miséricorde en lui donnant quoi? Ben notre misère, d'accord, notre maladie, puisqu'on a que toi à lui donner. Bon ben, je vous donne ce que j'ai, j'ai des fruits pourris. Si c'était beau, je vous les donnerais, mais j'ai des fruits qui sont pourris. Je suis une loque humaine, je suis un captif, je suis un misérable. Bon, j'ai que ça à vous offrir, mais je vous le donne de bon cœur, parce que j'ai envie de vous donner quelque chose. Voilà, c'est ça, parce que j'ai envie de vous donner quelque chose. Alors j'ai que ça, ben je vous donne ça, mais parce que je sens votre amour, je sais que ça vous est égal, pourvu qu'on vous donne. Alors j'ai compris, je vous donne ça. Et à ce moment-là, alors là Dieu, il a résolu son problème, il a obtenu de nous cette gratuité que les anges n'ont pas tous donnée, que nos premiers parents n'ont pas donnée. Et alors, bien entendu, il dit maintenant mon tour, il nous guérit de toutes nos misères, il nous délivre de toutes nos captivités, par surcroît. Cherchez d'abord à me faire plaisir, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Voilà, ben c'est vite dit, hein. Mais c'est pas facile. Et voyez comme c'est exprimé par cette simple formule de Thérèse, comme je souffre de ne pas avoir en face de Dieu la délicatesse que vous avez, remerciez Dieu d'être sans délicatesse, ça y est. Comprenez, soyez touchés par l'amour infiniment miséricordieux qui se penche sur vous autant que sur moi. Problème n'est pas là. Mais si seulement vous vouliez bien lui faire un petit peu plaisir en le remerciant de vous aimer tel que vous êtes, c'est-à-dire sans délicatesse. La délicatesse, il vous la donnerait par surcroît. Mais la première délicatesse, c'est justement celle-là. C'est d'accepter d'être sans délicatesse. Et voilà. Il ne s'agit pas d'être sauvé pour aimer Dieu, mais d'aimer Dieu pour être sauvé. Et d'aimer Dieu pour rien. Et je répète, le problème, la difficulté, le danger, c'est exactement le même que celui des anges et de nos premiers parents. Aimer Dieu pour rien, ça n'est jamais évident pour personne. Ni pour les justes, nous l'avons dit suffisamment, ni pour les pécheurs, pour la même raison. Et pas du tout parce qu'ils sont des pécheurs. Parce que c'est aussi facile, même j'ai le soupçon que c'est plus facile. Au fond. Parce que justement, cette espèce d'illusion pélagienne dont j'ai parlé, j'y arriverai quand même, j'y arriverai bien. Bon, les pécheurs, à force de se casser la figure. Et s'ils ne se laissent pas prendre au piège du démon qui essaie de les entraîner dans le désespoir, ben, ils finissent bien par perdre, comme dit Angèle de Foligno, cet amour qu'il traînait au début, cette espèce de fausse manière d'être généreux, cette manière caractéristique de Pierre. Je donnerai ma vie pour toi, allez donc, mon bain quand on se fait un petit peu effondré, en larmes, parce qu'on a trahi, quand on a compris un certain nombre de choses. On est dans une situation certainement plus favorable que nos premiers parents pour faire à Dieu le plaisir d'accueillir sa miséricorde, non pas d'abord pour être sauvé, mais d'abord pour lui faire plaisir. Ah, ben là, c'est là. Qu'est-ce que vous voulez, moi, je ne sortirai jamais. Tout ça se joue autour de ça. Celui qui veut la miséricorde pour être sauvé, je suis tenté de dire, n'aura pas la miséricorde. Mais celui qui veut la miséricorde parce que la miséricorde le bouleverse dans le spectacle du Christ en croix, c'est ça qui nous est offert, c'est de contempler la miséricorde à travers le Christ en croix, c'est ça toute l'occupation de l'Église depuis 2000 ans. Celui qui se laisse toucher par ce spectacle et qui a envie de faire quelque chose pour consoler Jésus, recevra miséricorde. Il faut que ce soit gratuit. Hein. Oh, il faut que ce soit gratuit. Mais alors, là, ce que les spirituels ont appelé la pureté d'intention, et qui apparaît comme quelque chose, oh là là, impliquant des raffinements pétroliers, très exigeants, austères, inaccessibles, mais c'est tout simplement ce besoin qu'on lui fasse plaisir. Tenez, je vous raconterai un tout petit quelque chose. Très bête dans mon existence, très très bête. Je m'est arrivé de rendre visite à quelqu'un pendant des mois et des mois, quelqu'un qui était très content de me recevoir et qui à chaque fois m'offrait quelque chose, je ne préciserai pas quoi, mais enfin quelque chose qui manifestement me faisait plaisir. Alors là, manifestement. Et alors cette personne qui m'aimait bien, qui trouvait que je l'aimais bien, mais qui quand même trouvait que j'aimais bien aussi ses cadeaux. Alors un beau jour, m'a dit carrément, ben aujourd'hui, je vous offre rien. Parce que j'ai envie que vous veniez comme ça, pour rien. J'ai compris. J'ai essayé de comprendre. Et c'est pour ça que Dieu nous refuse tant de choses, apparemment. C'est pour ça que ça marche pas, que nous n'obtenons pas, que les montagnes ne disparaissent pas dans l'océan. C'est parce que tout ce que nous demandons à Dieu, c'est pas pour rien. Par ici, par ici. L'âpreté, l'âpreté au gain, l'âpreté de la misère qui... Et que de fois j'ai entendu ça, je connais quelqu'un qui disait, mais faut faire ceci, faut faire cela pour lui faire plaisir, qu'il me guérisse d'abord. Voilà. Alors après, je lui donnerai tout ce qu'il voudra. Ben, il n'a jamais été guéri, qu'est-ce que vous voulez? Jamais. Ça. Et alors, voilà pourquoi je termine sur une deuxième histoire de Thérèse à l'enfant Jésus, qui n'est pas dans l'histoire d'une âme, mais qui est dans les notes de la grande édition, peu importe, où une sœur lui disait, vous parlez tout le temps de la miséricorde, c'est bien gentil, mais il y a la justice, ce que je vous disais tout de suite. Et alors, en effet, pendant des années, moi j'ai lu la Bible, la vie des saints, la théologie, les grands théologiens, le père Garrigou Lagrange, justice, miséricorde, prédestination, tout ça, j'en étais malade, parce que je me disais, c'est très bien tout ça, si on tombe sur la miséricorde, tout est réglé, c'est évident. Oui, mais si on tombe sur la justice... La justice est impitoyable, la justice c'est la vérité, c'est ce que nous méritons. Ben, nous méritons l'enfer, c'est très simple pour l'histoire. D'ailleurs, Thérèse le dit elle-même, Thérèse, hein, à propos du purgatoire, en disant j'espère bien ne pas y aller, elle dit je ne suis même pas digne d'y entrer, mais j'espère bien ne pas y aller. Mais alors, non pas parce que je suis pas digne, mais pour aller au ciel, voilà, tout simplement. Je suis pas digne du purgatoire, je suis digne de l'enfer, mais j'espère bien aller au ciel, sans le purgatoire. Bon, ben effectivement, si c'est la justice, c'est l'enfer. Le purgatoire, faut déjà être très présomptueux pour se dire, je serais peut-être un peu de purgatoire, ou je serais peut-être un bon purgatoire. Et qu'est-ce que vous dites que vous ne ferez pas d'enfer? Il n'y a pas de garantie, jamais. Justement, c'est pas possible avec ce que je vous dis là. Alors moi, je comprenais très bien. Je me dis, à quoi je vais tomber. Alors, bon, bah, le Saint-Esprit, la Sainte Vierge, j'essayais de travailler mon âme dans le sens de ce que je sentais être la sécurité des pauvres. J'entrevoyais tout ce que je vous dis là. Que si on ne cherche plus à savoir, on s'abandonne, on dit, bah, j'irai où Dieu voudra. Les mains vides, je m'en remets. Bon, c'était déjà un peu la voie du bon larron. J'ai mérité l'enfer, c'est ce que dit le bon larron. J'ai mérité la croix, nous avons mérité la croix. Nous, lui, il n'a rien mérité. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Bon, ça, je sentais que c'était la sécurité des pauvres, la sécurité des pauvres pécheurs. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Nous remettons, nous rabâchons ça. Est-ce que c'est... Nous chantons bien un peu, là, oui, un pauvre pécheur. Bien, je me disais, ben, quand on est pauvre pécheur, on est en sécurité. Mais faut être pauvre pécheur. Alors, j'essayais de m'orienter, mais j'étais quand même mal à l'aise devant ce problème, miséricorde, justice, jusqu'au jour où alors j'ai vu comment Thérèse vous a réglé ça d'un coup de fulgurant, avec une de ses paroles fulgurantes, comme les saints dans le secret, et elle en particulier, à propos d'une sœur qui lui disait, vous parlez tout le temps de la miséricorde, ben, et qu'est-ce que vous faites de la justice? Vous vous en prenez bien à l'aise avec la justice, vous êtes bien désinvolte à l'égard de la justice, tout de même. La sainteté, ça ne s'obtient pas comme ça, vous êtes bien prétentieuse, on lui a dit d'ailleurs, la sainteté, doucement, là, hein, petite orgueilleuse. Bon, alors, à la fin, devant cette sœur qui lui disait « la justice, elle lui a dit, par cette parole absolument effrayante et merveilleusement consolante, elle lui a dit, ma sœur, écoutez, vous voulez de la justice de Dieu, vous aurez de la justice de Dieu. » Elle n'a pas ajouté, mais ça allait de soi, moi, j'aime sa miséricorde, j'aurai sa miséricorde. On obtient de Dieu exactement ce qu'on attend. Alors ça, elle l'a dit. Et la sœur est morte. Et la sœur, et Thérèse l'a vue au purgatoire. Et la sœur l'a regardée d'un air de dire, bah, si je vous avais cru, bah, j'y serais bon. Oui. Seulement, devant ça, je disais, oh, ben, c'est bien pratique, d'accord, bon, on se dit tout de suite, quoi. C'est pas de problème, moi je choisis avec toi, mais c'est évident. Ouais. Ben non, c'est pas évident. Parce que pour choisir la miséricorde comme Thérèse le faisait, il faut aimer la miséricorde. Il ne faut pas en profiter, il ne faut pas vouloir exploiter la miséricorde, se tranquilliser à l'aide de la miséricorde, se rassurer, se dire « Oh là là, Dieu est miséricordieux, il ne faut pas s'en faire ». C'est pas ça. Aimer la miséricorde, c'est être touché. J'en viens toujours à ça. Et pas touché sentimentalement, touché par une douche du Saint-Esprit qui nous dit « Vois comme je t'ai aimé, vois comme j'ai pitié de toi, vois quel amour infini tu as blessé par des actes analogues à ceux de ton premier parent. C'est pas, tu m'as pas blessé parce que tu es enfermé dans le péché, tu m'as pas blessé parce que tu es esclave dans le démon, du démon, tu m'as pas blessé parce que cet esclavage t'a peut-être entraîné à des horreurs comme le bon larron. C'est pas ça qui m'a blessé. » Voilà. Alors là, ce matin même, j'ai pas encore essayé, ni réussi, ni même essayé à vous faire comprendre que dans nos péchés, il y a des choses qui ne blessent pas Dieu. Elles sont quelquefois les plus horribles. Parce que c'est l'esclavage du démon. Et qu'on n'y peut pas grand chose. Ou tout au moins, on y pourrait beaucoup. Si on ne commettait pas un autre péché qui lui blesse Dieu, on ne lui donne pas ce qu'il attend pour rien. Parce qu'on est touché par son amour infini, par sa grande miséricorde infinie exprimée à travers la croix du Christ. On ne lui donne pas notre confiance, pas plus que nos premiers parents, pas plus que les mauvais anges, mais comme eux, de la même façon. Alors là, nous blessons Dieu et nous le crucifions.